Bonjour, bienvenue à ce cinquième épisode où je reçois mon premier invité sur le podcast, un entrepreneur inspirant. Le premier épisode aujourd'hui, nous parlerons de son parcours. Ensuite, je vous offre un deuxième épisode où on présente son trip de moto à travers l'Amérique durant 24 mois. Et on termine avec la présentation de son entreprise qui est au Mexique comme troisième épisode. Un entrepreneur authentique, spontané, parfois aussi un peu cru. Vous serez charmé par cet invité, je le souhaite sincèrement. Alors, on l'accueille dès maintenant. Bonne écoute tout le monde. Laissez être. Bienvenue dans cet univers de réflexion et de discussion, où ma voix s'exprime avec douceur et sincérité sur des sujets. Sans tabou ni jugement, on explore. On laisse être les émotions. Ouvrez grand le cœur et les oreilles. Laissez-vous valser entre vos sensations, vos interrogations et vos inspirations. Laissons-nous être. Bonjour tout le monde, ça me fait sincèrement plaisir aujourd'hui d'être avec vous parce que j'accueille mon premier invité sur mon podcast et j'ai choisi une personne qui me rend vraiment heureuse depuis la première journée que je l'ai rencontré. J'ai l'immense plaisir, et je ne pèse pas mes mots, de recevoir un gars que j'admire énormément. Il y a 2 semaines, j'étais assise dans ma voiture et je pensais à un bon podcast. Je me suis dit, il est temps que j'invite des entrepreneurs qui m'inspirent, des gens qui ont su se laisser être simplement, des gens qui font la différence et qui sortent du moule, des sentiers battus, qui se défont des normes de la société, qui se laissent guider par leur intuition et savourent la vie, des gens qui célèbrent leur unicité au quotidien. La personne que j'accueille aujourd'hui est le visage qui me revient en tête à chaque fois que je pense à une personne qui a su écouter son cœur contre vagues et marées. C'est le cas de le dire, c'est un adepte de surf, OK? D'une personne aimante qui vous regarde sincèrement dans les yeux avec un sourire aux lèvres. Ça fait des années qu'on s'est pas vu en face, mais j'ai ce souvenir ancré dans ma mémoire. Un voyageur dans l'âme, un amoureux de la nature, l'hiver pour le snowboard, l'été pour le surf. Rien de l'élève modèle et après plusieurs pauses dans son parcours universitaire, il a complété son bac en ingénierie mécanique, même qu'il a fabriqué sa propre planche de surf comme projet de fin d'études. Il a rapidement fui le modèle qu'on lui proposait, métro, boulot, dodo et 2 semaines de vacances par année. C'est l'appel de l'océan qui l'a amené à tout quitter pour l'aventure d'une vie en moto. Et aujourd'hui, il a posé pied à Playa Cerritos, Baja California Sur, Mexico. Précisément, où il a créé son petit paradis sur Terre. Alors, David Rodrigue, bienvenue à Laisser être. J'y croyais pas quand je t'ai écrit, puis je t'ai envoyé mes messages vocaux au froid dans mon auto. Ta sœur m'a répondu en premier, ta partenaire d'affaires, mais ta réponse a été aussi rapide et positive. C'est ce que je souhaitais, puis vraiment, merci. Je pense honnêtement que tu es aussi content que moi de faire cette entrevue-là, hein?
Ben oui, ben merci bien de m'avoir invité. Pour vrai, ça me fait énormément plaisir. Quand c'est ça, quand j'ai vu les messages, j'étais comme wow, ça serait. Ça m'a fait chaud au cœur de savoir que tu avais pensé à moi pour cette entrevue-là. C'est vraiment cool.
C'est ça, j'ai pas juste pensé à toi. Pour vrai, je le sentais. Je disais qu'il faut que ça soit lui le premier. Le monde. Ouais, c'est ça, le monde a besoin de gens comme toi. Fait que le monde a besoin d'entendre des gens comme toi. T'as un parcours vraiment très cool, inspirant. Puis là, avant qu'on se plonge, là, OK? Comment ça va? Okay.
Ah, ça va bien, ça va très bien. Je suis très occupé dernièrement, mais là, c'est ça, on a comme un petit répit de 2-3 jours, donc on le prend, mais c'est ça, ça a été super occupé. Le mois de janvier, c'était notre plus gros mois de location à date. On a eu beaucoup, beaucoup de gens. La réponse est super bonne à l'hostel. Le monde adore notre projet depuis le début. On a juste des bons commentaires. Puis disons que ça met du gaz sur le feu à vouloir continuer puis aller de l'avant puis continuer de pousser notre projet. Là.
Ben oui, c'est clair.
Ouais, ça fait du bien d'avoir une confirmation comme ça, mais c'est ça, c'est beaucoup de travail.
Ah, c'est sûr. Puis au moins, il fait beau sur la côte ouest du Mexique.
Oh yeah, ouais. En fin de semaine, on s'est payé une petite journée de surf. Puis il a fait gros soleil toute la journée. On était super bien. Puis Non, c'est ça, c'est vraiment cool le Mexique.
Non, mais c'est clair, j'en doute même pas, c'est sûrement bucket list depuis des années. Mais parfait, mais c'est sûr que je vais y aller un jour, je sais pas quand, mais c'est là. Avec David, ouais, j'ai fait un cours.
Tu seras la bienvenue.
Ah, c'est sûr, je sais, là, je vais venir faire du yoga avec vous autres. Fait que je t'ai présenté rapidement, j'ai fait un gros résumé de ton parcours, mais si on revenait un peu au départ, la vie en pensionnat, ça m'a toujours intriguée. C'était comment pour toi? Tu es allé dans un pensionnat, right?
Oui, je suis allé, j'ai fait 5 ans au pensionnat à Bromptonville. C'était un pensionnat religieux, dans le fond. Puis ça a été quand même vraiment intéressant. Ça a été intéressant par le fait que c'était bon pour l'encadrement, pour la partie éducationnelle, dans le fond. Tout ce qui est les cours, on était super bien encadrés pour être capable de, justement, il y avait plusieurs vitesses que, tu sais, si tu comprenais pas bien, tu étais capable d'avoir des cours supplémentaires pour être capable d'augmenter tes notes ou bien d'être capable de comprendre la matière. Toute la partie devoir, on avait vraiment des périodes attitrées à ça, donc on n'avait pas le choix de faire nos devoirs, mais ça permettait aussi de justement dire, regarde, tout le monde fait ses devoirs pendant la prochaine heure, ben regarde, tout le monde fait ses devoirs, c'est fini, puis après ça, on va jouer. Mais ce qui était le fun aussi, c'était justement la partie sociale de ça. T'sais, on était littéralement avec nos amis 24 heures sur 24. Donc, tu sais, on a bâti des amitiés que, encore à ce jour, un de mes meilleurs amis, Maximilien, je l'ai rencontré au pensionnat.
Oui.
Rémi Mercier, je l'ai rencontré au pensionnat. Tu sais, on a été amis depuis qu'on avait 12 ans, peut-être. Là, tu sais, on est rendu à 35 ans. Ça fait quand même plusieurs années.
C'est une vingtaine d'années.
Oui, c'est ça. On est quand même. Oui, c'est ça. donc, c'est ça, tu sais, ça l'a forgé des amitiés qui ont resté. Puis, c'est ça, c'était moi, dans le fond, ce qui m'avait attiré vers le pensionnat, c'était la partie, justement, sportive. Tu sais, on avait accès aux murs d'escalade, on avait une patinoire extérieure pour jouer au hockey. Puis, à un certain point, tu sais, on avait déjà ça de disponible. Puis, nous, on était à un point où j'étais comme, bon, OK, c'est le fun de le hockey, là, mais... J'avais commencé à faire un peu plus de planches en neige, puis j'ai poussé pour être capable de développer un snowpark. Donc, l'hiver, dans le fond, on avait, durant notre période, nous autres, de sport, au lieu d'aller jouer au hockey, puis pousser de la neige, puis pour nettoyer la glace, bien, on allait monter des jumps, puis faire des rails en snowboard, puis c'était ça notre période. Puis on avait eu le droit de genre, vraiment créer ça dans notre horaire. C'était le seul qui était le fun. On avait quand même... On était encadrés, mais on avait une flexibilité dans cet encadrement-là qui nous permettait de se développer vers où est-ce qu'on voulait aller, en autant qu'on avait la motivation et les bonnes raisons de le faire. Puis justement, on était capable de développer le skatepark et le snowpark. Puis on était rendu, on s'en allait, là, mais on avait commencé à développer un bike park aussi, des trails dans le fond, dans le bois.
Pour le mountain bike.
Pour le mountain bike et le BMX. Ouais. Donc, on avait vraiment une latitude par rapport à ça. Puis, tu sais, la meilleure qui voyait ça, les frères au couvent, je sais pas, on va appeler ça le couvent, mais au pensionnat, c'était dans le fond, tiens les jeunes occupés, puis tu sais, t'auras pas de problème. Parce que nous autres, c'est ça, c'est si vous nous laissiez un peu en limbo, pas trop quoi faire. Ben, on se mettait dans le trou et on faisait des conneries. Mais, tu sais, si, genre, justement, on dit, hey, moi, j'aime ça faire du snowboard, laisse-moi faire du snowboard. Fais-moi pas faire du hockey si c'est pas ça que je veux faire du snowboard. Ben, OK, vas-y, va faire du snowboard. Puis, comme ça, ben, au moins, tu fais pas de conneries pendant ce temps-là. Puis, tu fais quelque chose que t'aimes. Puis, tu t'améliores dans quelque chose que t'aimes. Puis, qui te passionne. Puis, je pense que c'est quelque chose que vraiment, justement, on devrait aller plus vers la passion. Puis, pousser, de, justement, tu sais, le système d'éducation. De mettre l'emphase sur hey, toi, le jeune, qu'est-ce qui te passionne? Si tu fais ce qui te passionne tous les jours, tu vas tellement être motivé là, que ça ne te fera pas chier d'aller à l'école. Mais la plupart du temps, c'est que tu es à l'école, tu es juste genre, tu es bombardé de plein de trucs qui ne te passionnent pas nécessairement. Oui, tu peux aller dans un domaine. Moi, j'ai étudié en génie mécanique, je suis allé dans le domaine de la mécanique, ça me passionne. Mais les trois quarts des cours, j'étais comme « Hey, man, c'est-tu plate, ça? » Genre, jamais je vais appliquer ça dans la vie de tous les jours. Jamais.
Non, c'est non, clair. C'est... Je suis bien d'accord avec toi, même moi aussi, la théorie des communications, s'entends-tu que je m'en balance un petit peu. Mais bon, ouais. Puis justement, ton parcours là, au pensionnat, penses-tu que ça t'a habitué, justement, très jeune, à être loin de ta famille?
Définitivement. Me dire, quand que tu pars de chez tes parents à, je vais avoir 12 ans, 11-12 ans, la première fois qu'ils me laissent à l'école, puis ils disent, bon, on vient te rechercher dans une semaine, là, t'es comme, wow, attends, là, je suis dans un nouveau domaine, d'une nouvelle place avec du monde, toutes des faces que je ne connais pas. Je ne sais pas ce que je vais manger. Je dors là, c'est mon lit, mais je dors dans une chambre qu'on est 50 dedans. C'est quand même assez... disons que tes premières semaines, premiers mois, c'était assez dur. Puis à un moment donné, tu t'habitues, tu crées des relations avec le monde, tu te fais des amis, puis après ça, t'es comme, ah ben... C'est vraiment le glitch de genre justement « break it off », puis un coup que c'est fait... ben ça devient comme une normalité, puis après ça t'es juste comme ah ben tu développes de plus en plus aussi la partie comment je dirais ça, autonome, genre maman papa sont pas là pour t'aider là, genre faut que tu te débrouilles, tu sais, il y a un encadrement, mais veut pas, faut que tu te débrouilles à faire tes propres affaires, puis on était vraiment encadré par rapport à ça, t'sais, on n'était pas là dans un 5 étoiles non plus là. On a aidé à faire à manger, on a aidé à faire la vaisselle, on avait des tâches pour faire le ménage. Donc, tu sais, c'était vraiment... Ils nous apprenaient vraiment à être autonomes, à être des adultes, que quand on allait tomber au cégep, en appartement, tu sais, quand je suis passé du pensionnat puis je suis rentré au cégep en appartement, j'ai pas eu un clash de faire, bon, comment je fais ça? J'étais genre, bon, ben là, c'est juste que là, je suis tout seul. That's it. Puis la transition s'est faite vraiment bien. Vraiment facilement. Dans le fond, tu sais, j'ai pas. J'étais comme, bon, ben, je suis rendu au cégep, c'est juste la suite des choses. Puis, mais c'est ça, tu sais, ça fait que je me suis juste vraiment habitué, vraiment jeune, à être parti. Tu sais, dans le fond, je suis parti de chez mes parents quand j'avais 12 ans, c'est ça que ça veut dire.
Oui, c'est ça. Puis, tu sais, comme tu dis, ça t'a permis d'être autonome assez rapidement, mais de créer ton identité, tu sais, de réaliser, hey, je suis pas juste un grand frère, je suis pas juste un petit gars de famille. Je suis David, puis ouais. je vais me créer mon identité. J'aime le snow, j'aime le bike, fait que je vais créer autour de moi avec un cercle de gens. Mais tu sais, je trouve ça très cool, moi, les pensionnats, là, j'ai toujours rêvé d'aller pensionnat, je sais pas pourquoi.
ça a des ups et des downsides aussi, là. C'est pas juste, c'est ça, il y a des fois que j'étais comme, bon, hein, je commence à être tanné d'être ici, là, parce qu'à un moment donné aussi, tu sais, c'est... T'as la partie, c'est le fun de voir tes amis tous les jours, mais tu vois aussi les faces que t'aimes moins, ben t'es vois tous les jours, genre aussi, donc...
C'est un fait.
Ça peut être fatigant aussi à long terme, mais c'est ça, tu sais, j'étais... overall, j'étais vraiment content d'être passé par là, puis je pense que ça a été un bon choix. Je pense pas que je me serais rendu au cégep ou à l'université si j'avais continué sur le chemin que j'avais quand j'étais au primaire. J'étais trop tannant, genre j'haïssais ça l'école. Ben, je n'ai jamais vraiment été un fan de l'école à la base. Mais tu sais, juste à cause de ça, on dirait que ça m'a comme encadré de dire, OK, regarde, donc, je vais être capable d'aller à l'école parce que la contrepartie que j'étais capable de faire toutes les activités que j'aimais était là. Donc, c'était ça qui était le fun. Ça me motivait à rester là parce que si je me faisais mettre dehors de l'école, ben, je ne pouvais plus faire ça.
Ah, c'est ça.
Donc, c'était comme une motivation par rapport à ça. Là.
Cool. Ben oui, je suis super contente. Dans le fond, c'est sûr que pour les petits gars tannants, ça peut passer ou casser. Fait que je poursuis avec un petit fait. Okay, moi, je te connais pratiquement plus sous ton surnom de Camus le pirate. Ça vient d'où? Est-ce que tu peux expliquer ça dans un podcast? Ça fait-tu une mention digne d'une entrevue ou je passe à la prochaine question?
Oui, peut-être. mettons que ça, dans la suite des choses, c'était vraiment ça. Dans le fond, quand je suis arrivé au cégep, c'était encore la même chose. J'arrive dans une nouvelle ville. Ben, là, je partais de Bromptonville, mais là, j'arrive à Sherbrooke. J'arrive en appartement. J'étais avec justement Maximilien et Rémi en appartement. Dans un nouveau domaine. Je commençais ma technique en génie mécanique. Puis, je me suis dit, bon, ben, on s'est fait inviter, dans le fond, pour les initiations. Puis, les initiations en soi, c'était comme vraiment pas quelque chose qui était, comment je dis ça, mainstream. Dans le fond, c'est que les vieux nous invitaient chez eux une soirée, puis on allait se saouler. C'était quand même assez classique. De toutes les personnes qui avaient été invitées, je pense qu'on était trois personnes, des nouveaux qui étaient allés, moi, Rémi, puis un autre dude. Puis, quand je suis arrivé, dans le fond, à l'appartement, le monde a fait « Hey, vous êtes qui, vous autres? » »« Ah, ben, on est les nouveaux qu'on vient de rentrer de la nouvelle cuvée, dans le fond, de techniciens. »« Ah, ben ouais, ben c'est clair, ils ont fait boire plein de beer. » Puis, le monde, tu sais, genre, je m'étais présenté, puis tout, puis personne n'avait vraiment porté attention à mon nom, là, mais c'est pas grave. Mais le lendemain matin, dans le fond, quand on est arrivé à l'école, les vieux se rappelaient de moi parce que j'avais une calotte qui était écrite Camus dessus. Puis je pense que ça avait bien fait rire la veille. Ça fait que le nom de Camus était juste vraiment resté. Il n'y a pas personne qui savait mon nom au cégep ou presque, à part Camus. C'est que ça, c'était vraiment drôle pour ça. Ça a été mon surnom pendant des années. Même les professeurs m'appelaient comme ça.
Ah ben, tu vois, moi, Camus, c'est ce que j'avais en tête. Puis même que des fois que je me suis demandé c'était quoi ton nom, je savais. Hey, c'est le frère à Matt, c'est quoi déjà son nom? Camus, je dis, non, c'est David, c'est bon.
Mais c'est pour vrai, ça a été comme ça pendant des années. Puis, tu sais, c'est correct, que moi, je m'en foutais un peu. Puis, tu sais, il n'y avait rien de péjoratif à ça non plus. C'est que tout le monde avait un peu un surnom, puis ça a été mon surnom. Puis ça a vraiment perduré dans le temps. Puis le pirate, c'est parce que j'aimais bien ça, boire du rhum dans le temps, puis je faisais des conneries. Que,
ah, capitaine, okay,
ça a l'air que quand je buvais trop de rhum, j'avais un sourire de pirate. Que je sais pas.
Ah, ça se peut.
Ça l'était venu avec plus tard.
Oui, bien, c'est ça, j'ai des souvenirs de ça, moi aussi. on s'en va, là. On commence, là, OK? À quel moment t'as su que t'as un mode de vie différent t'appelait?
Qu'un mode de vie différent m'appelait... on dirait que ça a été plusieurs... C'était une succession de plusieurs choses. Ça n'a pas été un clash du jour au lendemain. J'ai définitivement toujours un problème. Pas un problème, mais j'étais pas appelé par le mode de vie qui nous était présenté, que je trouvais qu'il y avait trop de règles. On avait trop dans... Tu sais, c'était trop strict par rapport à qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. C'était trop... c'est ça que vous faisiez pour être... successful.
Un adulte.
Pour être un adulte, pour être... T'sais, une des premières questions que tu te fais poser quand tu es jeune, c'est genre, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, genre, comme emploi? Je suis comme, hey, man, j'ai genre 10 ans, genre, je sais pas, là. Je sais pas. Genre, pourquoi ce serait ça la question la plus importante? Genre, qu'est-ce que je veux faire dans la vie comme emploi? Je suis comme, non, genre, tu sais.
Mais ça devrait plus.
L'emploi, c'est plus genre la façon de ramener de l'argent pour être capable de faire qu'est-ce que je veux faire, qui est ma passion, qu'est-ce qui me drive, là. Et non le centre de ma vie en soi. Puis,
non, c'est ça.
Donc, c'est ça, tu sais, genre, je pense qu'un des gros points dans ma vie qui a vraiment fait changer quelque chose, c'est quand je suis tombé en amour avec le surf. Que j'ai fait, OK, je ne peux pas vivre au Québec. Genre, ça a été juste confirmé, je ne peux pas vivre au Québec. Je dois partir d'ici parce que genre la culture, c'est pas la culture, mais mon 9-to-5 à Montréal, ça ne le fera pas. Je ne serais pas capable de vivre heureux puis de vivre ma passion en faisant du 9-to-5 à Montréal. Ça n'arrivera pas, là. Donc, il fallait que je fasse un choix. Puis, je suis allé confirmer. Je suis allé passer 3 mois au Costa Rica en 2008. Puis ça a été vraiment genre, OK, ouais, j'aime vraiment ça, faire du surf. Là. C'est pas juste une petite passion de genre, pas une passion, mais un petit sport que j'aime ça faire une fois de temps en temps. Non, c'est quelque chose que j'aimerais ça faire tous les jours. Donc, ça a été vraiment comme le moment où j'ai fait, OK, ouais. Genre, le surf, ça va prendre beaucoup de place dans ma vie, puis je pense que je devrais mettre ça au premier plan, puis faire les choix pour être capable de faire ça tout le temps. Donc, c'est ça, je suis revenu, j'ai fait mon université pendant quelques années, puis ensuite de ça, j'étais vraiment un peu tanné d'être là, d'être à l'école, parce que justement, j'étais comme, bon, si je finis l'université comme ingénieur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais travailler dans une tour de bureau à Montréal. That's still not going to help it. Mais là, je me dis, ah, peut-être que je serais capable de travailler en ligne, peut-être que je serais capable de travailler trois semaines in, deux semaines out, kind of thing. Mais là, finalement... Ouais, c'est ça, c'est que j'étais un peu. Je faisais un petit peu ça reculons, je vais t'avouer, là, à l'université. Ça me tentait au début, ça ne me tentait pas en même temps parce que j'étais comme, ah, c'est une petite perte de temps. Ça va m'amener quoi, ça, dans le fond? Puis, finalement, en 2010, je suis parti un an en Espagne. Puis, ça a été vraiment, ça aussi, ça a été vraiment un autre point quand même assez culminant de ma vie, de dire, je m'en vais étudier dans un autre pays, je m'en vais vivre dans un autre pays. C'est quoi vivre dans un autre pays? Tu sais, je suis habitué au Québec, j'étais habitué, tout est en français. Là, du jour au lendemain, je m'assis sur un banc d'école en Espagne, tout est en espagnol. Méthodologie, culture différente, encadrement différent. Puis là, je me dis, waouh, OK, le monde ici vit de manière complètement différente, puis ils sont heureux. Je rencontre le monde, ils sont heureux d'aller vivre comme ça, mais justement, ils sont pas dans le go, 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 go. Genre, c'est genre, hey, OK, on se réveille tard, on va prendre un café le matin, OK, on va aller travailler. À 1 heure, on ferme la shop, puis siesta pour 2 heures. Je suis comme, waouh, man, vous êtes capable de vous permettre ça. This is awesome. Puis vraiment, dans l'équilibre, il y avait un équilibre qui se créait, que le monde était capable de faire entre travail, puis passion, puis genre la vie sociale. Tu sais, c'était super social là-bas. C'était tout le temps autour du social même. Donc, tu sais, ça m'a vraiment amené comme une ouverture à dire, OK, ouais, t'es pas obligé de suivre le modèle qui t'a été présenté quand tu étais jeune. Tu es capable de suivre un autre modèle complètement et ou de créer ton propre modèle si tu veux, parce qu'il n'y a pas de règles par rapport à tout ça. C'est toutes des règles non écrites. C'est ce que le monde veut, c'est ce que la société veut que tu fasses, que tu sois le bon petit soldat qui va travailler tous les matins, puis que tu fermes ta gueule, puis tu ramènes de l'argent pour les taxes puis les impôts. Là. Mais ça, c'est ce qu'ils veulent. Tu n'es pas obligé de faire ça. Là. Tu peux gagner suffisamment pour être capable de bien vivre, mais de quand même vivre de ta passion puis vivre d'un autre modèle complètement différent sans avoir l'aspect de performance puis avoir l'aspect de statut social, etc. Donc, c'est ça, avec l'Espagne, ça a été un bon clash pour ça. Puis ensuite de ça, c'est ça, quand je suis revenu d'Espagne, j'ai vraiment un autre gros clash. Je suis revenu au Québec, justement, après avoir passé... un an là-bas à étudier, à voyager, à rencontrer du monde de tous les pays européens. Puis, je reviens au Québec. Genre, après un mois, j'étais vraiment content de revoir la famille, les amis, de retourner un peu dans une place que je connaissais. Mais ça n'a pas pris un mois que j'ai lâché l'école, la copine, la job. J'ai tout lâché. Je suis reparti. J'ai fait, OK, je ne suis pas capable d'être ici. Là, ça ne marche pas en tout. J'ai pacté mon char, puis je suis parti vivre dans l'Ouest pendant un an. Encore là, c'est ça, je suis arrivé là-bas, genre j'avais pas d'argent. Je revenais d'un an en Espagne avec aucun income. Je suis parti du Québec, j'avais vraiment pas d'argent. Mais c'était tellement meant to be que je suis arrivé là-bas. J'ai trouvé un endroit où rester en dedans de 2-3 jours. En dedans de 4-5 semaines, j'avais un job assuré au resort que travaillait sur la maintenance. J'avais ma passe de ski payée. J'ai eu la meilleure genre, saison de snowboard de ma vie, genre là-bas. J'ai rencontré du monde génial.
C'était juste où exactement?
C'était à Kicking Horse. C'était vraiment nice. Puis quand j'ai fini ma saison, en fond, j'étais parti ensuite de ça à Tofino. Puis Tofino, encore là, le surf, ça faisait longtemps que j'en entendais parler, mais d'aller le voir first-hand puis d'aller surfer là-bas, c'est challengeant parce que c'est de l'eau froide et tout, là, mais vraiment, vraiment nice. Puis j'avais rencontré justement un gars qui m'a quand même, ça a été quand même un mentor en certains points. dans le fond, je travaillais avec dans le bike shop là-bas à Tofino. Puis lui aussi, il avait voyagé énormément. Il était plus vieux que moi, pas mal. Mais justement, il était comme, il avait décidé de jamais settle down. Nous aussi, c'était un ingénieur mécanique. Il a juste fait, hey man, j'adore pas en tout au modèle qu'il nous propose. Puis lui, il a juste dit, regarde, moi, ce que je veux faire, c'est voyager. Je vais gagner assez d'argent pour être capable de voyager. Je vais gagner assez d'argent pour faire ma passion, puis faire du kitesurf, puis faire du vélo, puis le reste, je m'en fous. Là, puis, tu sais, c'est vraiment, pas qu'il se foutait, mais oui, à un certain point, il se foutait de ce que les autres pensaient. Il était là parce que c'est ce qu'il voulait faire. Puis, that's it. Même si le monde disait, mais qu'est-ce que tu fais, man? T'es rendu à 35 ans, man. T'as pas d'enfant, t'as pas de maison, t'as pas ci, t'as pas ça. Ouais, mais je fais ce que j'aime. Who gives? À un certain point, c'est ça, là. Si tu veux avoir, tu sais, si ton objectif de vie, c'est d'avoir une maison, d'avoir un gros char, ben, à un moment donné, il faut que tu travailles en fonction de ça. Mais si c'est pas ça ton objectif de vie, ben, pourquoi tu le fais? Right? C'est que t'es capable après ça de justement dire, hey, tu sais, si ma passion, c'est d'avoir une voiture de course, ben, je vais travailler pour acheter ma voiture de course. Mais si ma passion, c'est de voyager, bien, je vais travailler pour voyager. Puis quand que je vais voyager, je vais arrêter de travailler. Puis quand j'avais plus d'argent, je retourne, je travaille, je recommence à voyager. Fait que dans le fond, c'est vraiment de tu sais, le travail devrait plus être un outil qu'une fin en soi de dire genre, ah, ben il faut que je travaille. Non, il ne faut pas que tu travailles. Tu sais, travailler, il faut que tu ailles, c'est pour faire de l'argent. C'est pour dépenser ton argent, c'est des affaires que... qui te rend pas vraiment heureux, puis c'est juste des objets, mais tu sais, c'est quoi le point?
Mais tu vois, ça, pour vrai, ça me fait tellement du bien à entendre, là. C'est exactement ça, tu sais. Faut être vraiment conscient de la personne que t'es, tes vrais besoins. Tu sais, ouais. Fait que toi puis ce gars-là, vous êtes dit, nous, c'est pas cette image-là, c'est pas ça qu'on ressent en dedans, on veut pas ça, donc on va faire en sorte de vivre à notre manière. Puis ça brime personne, tu sais, ce que tu me dis là, t'as pas brimé personne, puis t'as pas nécessairement blessé des gens en faisant ça, t'as juste écouté, puis lui, c'est Danny, c'est ça?
Ouais, c'était Danny, son nom.
Danny, ben tu sais, exactement la même chose. Fait que tu sais, mais à t'écouter, tu sais, c'est tout rose, mais tu me dis que c'est pas nécessairement tout le temps facile. T'as-tu des exemples de up and down que t'as vécu dans l'Ouest pendant...
Ah, c'est... Des fois... je vais continuer à partir de Danny, puis tu vas voir un peu le reste. Fait que dans le fond, à partir de... Genre, quand je te dis que c'est pas tout rose, justement... À partir de Danny, dans le fond, quand on a eu une discussion, une soirée, puis là, genre, on parlait, blablabla, bla, bla, puis là, il me parlait de voyage, puis là, j'étais comme, man, je te montre j'ai montré une photo de mon vieux Jeep que j'avais dans le temps. Je dis, ah, dude, man, il faudrait prendre ça, puis descendre en Amérique du Sud, man, en voyage, genre, pendant une couple d'années, genre, puis juste faire toutes les beaches, puis aller surfer, puis j'étais comme, fuck yeah, man, c'est ça que je veux faire. Puis j'avais quand même bu pas mal ce soir-là, puis genre, le lendemain matin, genre, lui c'était comme oublié, moi j'étais comme, ah, that's it, c'est ça qu'il faut que je fasse, genre, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux faire, je veux aller dans l'Amérique du Sud, puis je veux aller, genre, explorer. Puis c'est de là que mon autre voyage d'après de moto a décollé. Mais c'est ça, pour quand que j'étais rendu pendant ce voyage-là, là, des fois, là, j'étais dans des moments de marde, de genre, ça fait genre 5 heures que tu roules à pluie battante, t'es dans le milieu d'absolument nulle part. Tu pètes ton câble de cloche, t'es juste comme, dude, qu'est-ce que je fais ici, man? Pourquoi je me donne autant de misère? J'aurais pas pu juste genre suivre puis embarquer dans les tracks du monde puis juste faire genre mon 9-to-5 puis pas me poser de questions de ma vie, genre.
Mais ça, c'est ton voyage en moto, là.
Oui, mais c'est comme ça aussi en général, tu sais, genre, je vais te dire, tu sais, même aussi ici au Mexique présentement, des fois, je suis juste comme, hey, man, je me complique la vie, là. Si j'aurais pu garder ça simple, là. Je suis comme, pourquoi, tu sais, genre, tu sais, quand que t'es dans un milieu que tout est comme pré-réglé pour toi, on va se dire, là.
Ouais.
Tu sais, quand j'allais travailler, là, je travaillais chez Loutec à Coinsville, je me posais pas de questions, là. Il fallait que je sois là à 7 heures, puis à 5 heures, je partais. That's it. Ça me donnait un certain montant d'argent par semaine qui faisait que j'étais capable d'avoir un rythme de vie qui était déjà pré-setté. Tout était seté à la scène ou à la pièce. tout était seté dans un horaire qui était prédéterminé. Il y avait très, très, très peu d'inconnus dans tout ça. Puis c'est ça qui arrive quand tu arrives dans le moule qu'on appelle. Tout vient un peu timé. T'es genre un horaire, boum, 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 genre tout est déjà programmé dans ton horaire. Tandis que quand tu es un peu un free soul, on va appeler ça comme ça, que genre, dans le fond, demain matin, je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas c'est quand la prochaine rentrée d'argent. Je ne sais pas c'est quand. Je ne sais pas si j'ai une bad luck, je fais quoi. Je suis dans un autre pays ou je suis à l'autre bout du monde. Tu n'as pas le choix d'être débrouillard. Tu n'as pas le choix de, genre, justement, de trouver une solution. Puis des fois, tu n'as pas le choix de tasser et juste faire. Hey man, prends un grand respect, prends ton 2 minutes, là, parce que là, il va falloir que tu trouves une solution pour te sortir de la merde.
Oui, mais ça, c'est un besoin vital de l'humain, c'est la sécurité. Fait que, ouais. C'est sûr que quand tu sors, là, quand tu sors de justement du modèle, ben effectivement, ça, je sais très bien de quoi tu parles, là, devoir se débrouiller. J'ai voyagé moi aussi, puis des fois, tu te retrouves dans des situations, t'es comme OK. C'est quoi? Je peux pas prendre le téléphone. Là. Personne, ma mère va pas arriver avec son char. Viens ta mère.
Non, c'est ça. Comment je fais pour me sortir de ça? Là? C'est quoi? Là, il faut vraiment que tu y penses à genre comment je vais faire pour me sortir de la situation. Ou des fois, c'est genre la situation n'est pas encore tout à fait là, mais tu sais qu'il y a quelque chose que je suis comme hey, attends, là, je fais quoi genre si ça arrive, là, d'un peu prévoir. Mais ouais, des fois, ouais, c'est définitivement, il y a eu des moments que c'était vraiment, vraiment rough. C'est ça, mon voyage en moto, chacune des journées, c'était littéralement chacune de mes journées, je faisais face à l'inconnu. Je sais pas où est-ce que je vais manger, je sais pas où est-ce que je vais dormir, je sais pas qui je vais rencontrer, je sais pas qu'est-ce que je vais voir, je sais pas si ma moto qui était définitivement pas neuve quand je suis parti, puis que là, j'ai mis 60 000 km dessus, je sais pas si elle va péter. Il est où le prochain garage? Quand tu es rendu en Patagonie, que tu as 300 km dans une direction, 300 km dans l'autre direction, puis absolument rien pantoute. Là. Disons que tu ne veux pas pousser la moto pendant 300 km.
Oui. Non, c'est clair. Mais OK, si je reviens, là, entre l'Ouest et ton voyage en moto, tu n'es pas retourné faire ton bac?
Oui, je suis retourné, okay. Dans le fond, quand j'ai fini mon année dans l'Ouest, j'ai rendu un peu un tourné des chemins, là, un croisé des chemins. Je me demandais, est-ce que je reste ici au BC, puis je continue de faire du surf puis du snowboard, puis tu sais, suivre les saisons comme que j'ai fait, puis que genre, j'ai vraiment, vraiment adoré. Ou je retourne au Québec. Je m'en vais finir mon université, get that out of the way, puis après ça, ensuite de ça, je vais être libre. Genre, je vais être capable de dire, genre, j'ai fini mon université, j'ai mon bac, peu importe ce qui se passe, c'est un peu comme une étiquette que genre, je suis capable de toujours utiliser, de dire, ah ben j'ai un bac en génie mécanique, je peux retourner puis me trouver n'importe quel job un peu au Canada. Mettons qu'on va dire que c'est ma lifeline, là.
C'est ça, c'est ta carte, ton as de pique ou peu importe, là, c'est une sécurité quand même.
Oui, définitivement. T'sais, en tant que tel, ça a, aussi con que ça paraît, ça peut paraître, mais un bac en génie mécanique, ça a un statut. Pas que je vis derrière ce statut-là, mais le monde le voit comme quelque chose comme ah ben fuck, c'est quand même donné à peine de genre faire 4 ans d'études, puis c'est pas genre 2+2 comme mathématiques, c'est quand même pas mal plus complexe que ça. Donc, tu sais, d'un autre côté, j'ai jamais travaillé dans le domaine. Quand j'ai fini mon bac, que genre, c'est ça, quand je suis revenu de l'Ouest, j'étais tellement motivé à get that out of the way pour être capable de justement faire mon voyage en moto que j'ai étudié, j'ai clenché toutes mes affaires, j'ai eu des super bonnes notes pour finir mon bac. Je m'impressionnais moi-même, j'étais comme ça se peut pas que j'aie eu un A, ça se peut pas, c'est impossible, j'ai jamais eu ça de ma vie. Mais j'ai fini avec des notes, genre, que j'étais comme fuck. Y a-t-il quelqu'un qui a, genre, fait mes examens à ma place? Ça se peut pas. Mais c'est ça, j'étais tellement motivé à finir ça le plus vite possible que, justement, j'étais comme là, c'est fini, genre, je poche plus de cours, là, faut vraiment que je clenche. Puis, fait que j'ai fini mon bac, puis ensuite de ça, j'ai eu quand même un gros setback ensuite, après le bac, parce que j'étais comme, je veux payer mes dettes d'études, puis je veux partir. Mais là, j'étais comme, ça me prend un job ASAP pour être capable de payer ça. Puis là, j'étais genre dans le basement chez mes parents. J'envoyais des emails genre à tout le monde. J'envoyais mon CV partout. Je faisais des appels. Après ça, j'ai pris mon char. J'étais allé me promener. J'étais allé porter des CV aux portes directement. Il n'y a rien qui débouchait. J'étais comme, hey, man, là, j'ai quand même forti. J'ai genre 3 ans de technique en génie mécanique plus 4 ans de bac en génie mécanique aussi, pas capable de me trouver un job. Tu me niaises-tu, là?
Mais genre, c'est une réalité. Pour vrai, là, c'est encore une réalité. Tu sais, il y a une pénurie de main-d'œuvre, mais c'est pas parce que tu as un diplôme que tu vas trouver un job. Ça, c'est fou encore aujourd'hui au Québec. Là,
ça me fait fou. Capoter parce que c'est ça. Tu sais, nous autres, en tant que tels, tu sais, quand tu étais à la technique, puis tu disais, ah, ben, tu sais, si ça vous tente, vous pouvez aller à l'université à partir de là. Ils nous faisaient miroiter la belle job en ingénierie, le salaire de 100 000 par année en commençant. Je suis comme, pourquoi? Genre, OK, 4 ans de plus, on va faire 4 ans de plus, puis je vais passer de 35 000 à 100 000. Go for it. C'est un bon investissement en soi. Puis, tu sais, en tant que tel, tu vas pas faire. C'est le fun de faire du machinage en technique, là, mais à un moment donné, ça fait son temps, là, je ferai pas ça toute ma vie. Là.
Mais tu l'as pas fait toute ta vie non plus.
Non, j'ai définitivement pas fait toute ma vie, mais tu sais, à ce moment-là de ma vie, j'étais encore à un point que j'étais encore mindé à tomber dans le moule parce que c'est ça qui m'avait été présenté puis c'est ça qui m'avait été vendu. Donc, tu sais, j'adhérais un peu à reculons, mais encore, j'étais comme, c'est quoi mes autres options? C'est ça qu'il faut que je fasse en soi, là. Donc, c'est ça.
C'est une bataille tout le temps contre le modèle, la société. Dire, OK, est-ce que ma passion est plus grande? Est-ce que je continue? Est-ce que je tombe dans le moule? Tu sais, c'est tout le temps là, plein de, tu sais, des peurs qui embarquent là-dedans. Puis, ah non, je vais prendre mon courage, je vais foncer. C'est rempli de ça, là. C'est fou.
C'est vraiment dur. Puis le mot peur.
Ouais.
Le mot peur, Dominique, c'est probablement le mot. C'est probablement la chose qui fait arrêter le plus de monde. Le monde, ils vont mettre leur passion, vont mettre leur qui je suis de côté à cause qu'ils ont peur. Puis je vais te le dire, tu sais, ça fait peur. Moi, la journée, justement, que je revenais d'Espagne, puis que là, genre, j'ai décidé d'arrêter mes études, de tout arrêter littéralement en dedans de, je vais te dire, 6 heures. J'avais vidé mon appartement, droppé ma job, j'avais arrêté mes études, j'avais une copine, moi, ça, en tout cas, j'avais borderline, mais en tout cas, genre, tout est arrêté. Là. En dedans de 6 heures, là, mon char était pacté puis j'étais parti. Là. Quand j'avais tellement peur, j'étais comme « fuck, c'est-tu la pire décision de ma vie que je viens de faire là? » Genre, pour, tu sais, genre... oui, j'avais peur. C'est vraiment la peur, c'était quelque chose que. Puis c'est quelque chose d'humain, la peur. Mais d'être capable de la surmonter, de dire, hey, non, c'est vraiment ça que je veux faire. Puis de dire, hey, la peur, c'est vraiment quelque chose que c'est nous-mêmes aussi qui se crée.
Ouais.
On se fait des peurs par rapport à des situations, des fois, qui n'arriveront jamais. C'est bon d'avoir une certaine crainte des fois, mais de vivre dans la peur tous les jours, de toujours penser au pire scénario, t'avanceras jamais dans la vie. Là. Puis des fois, c'est justement de dire, OK, je vois qu'il y a un risque, je vois qu'il y a des possibles conséquences par rapport à ma décision, mais je vais de l'avant pareil, puis go. Puis c'est ça, tu sais, de mettre la peur un peu de côté, puis de foncer quand même quand tu penses que c'est la bonne chose à faire, mais... Si tu vis toute ta vie dans peur, tu ne vas jamais rien accomplir. Jamais, 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 jamais. Tu vas tout le temps être genre sur la défensive. Tu vas tout le temps rester dans la petite zone de confort que le monde t'a créé ou que tu t'es créé. Mais c'est quand tu restes dans la zone de confort, tu n'avances pas. Là. Tu vas rester exactement en même place toute ta vie. C'est ça qui est plate parce que genre j'ai des amis, j'ai des connaissances, je rencontre du monde qui me disent « Ah, man, c'est genre tellement cool que ce que tu fais. » J'aimerais tellement ça, faire ça. T'es tellement chanceux. Je suis comme, hey, je suis pas chanceux, man. Tu penses-tu qu'il y a quelqu'un qui m'a pris par la main, qui m'a emmené faire toutes mes affaires que j'ai faites? Non, man. J'ai travaillé pour, j'ai fait les efforts, j'ai fait les choix. J'étais à la croisée des chemins. J'étais comme, OK, si je reste ici demain matin, j'embarque dans ce job-là, je peux faire 100 000 par année puis avoir genre tout qu'est-ce que la société veut que je fasse. Parce que, tu sais, don't get me wrong, j'ai eu des offres d'emploi éventuellement, là, ça a pris beaucoup de temps. Puis j'ai fait, non, man, qu'est-ce que tu m'offres? Ouais, OK, 100 000 piastres par année, qu'est-ce que je fasse avec ça? Tu veux que j'aille m'isoler à l'autre bout du monde? Puis non, j'en veux pas. J'ai littéralement dit, non, j'en veux pas. Puis est-ce que c'était une bonne décision? À ce moment-là, probablement, j'aurais peut-être dû dire oui à l'argent, mais de l'autre côté, j'étais comme, non, si j'embarque là, là c'est fini, hein? Parce que là, ça va être genre, tu vas être, quand t'embarques sur ce train-là, t'es faite.
C'est déjà la fin pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine où David nous présente son 2 ans de périple en moto à travers l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Et ensuite, un 3e épisode sera présenté pour vous parler de son entreprise qu'il a fondée au Mexique. Vous avez aimé l'entrepreneur, vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur leur site internet de libraway.com. Ça m'a fait plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui. À très bientôt.